Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'Opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
L'histoire du jour. Quelle différence existe-t-il entre une femme et du café ? Bon, je vais vous donner la réponse. Donc, il n'y a pas de différence parce que dans un cas, quand c'est consommé avec modération, ça excite, ou quand c'est consommé avec excès, ça énerve.
Jeu, rire, osselet, équipier, collectif, jeu divinatoire, Scrabble, Awale, jeu de société individuel, Monopoly, développement de l'enfant, risque, divertissement, Mikado, ami, famille, Milborn, triche, mauvais joueur, Cluedo, addiction, sextoy, canard, stratégie, petits chevaux, jeu de cartes, écrabouiller son adversaire, communication, perdre ou gagner, Uno, domino, défaite ou victoire, désespoir, rencontre, jeu de société au Moyen-Âge, tarot. Vous l'auriez parié, nous allons aujourd'hui parler du jeu. Mais qu'est-ce que le jeu ? D'après Larousse, le dictionnaire, c'est une activité d'ordre physique ou mental, non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire, et à laquelle on s'adonne pour se divertir, en tirer un plaisir, en participant à un jeu. Et une activité de loisir soumise à des règles conventionnelles, comportant gagnants et perdants, et où interviennent de façon variable les qualités physiques ou intellectuelles, l'adresse, l'habileté et le hasard. Pour en savoir plus, nous interviewons aujourd'hui, par l'intermédiaire de notre beau téléphone, Frédéric du collectif Hot Fuzz Game.
Sommaire d'aujourd'hui, les lectures socioludiques tirées de l'atelier du poids des mots, des musiques divertissantes, un micro-trottoir sans mise de départ, un arvalo sans atout, une petite cuisine d'ozone en 7 lettres pas mieux, un interview fair-play, une minute du pôle tirée au sort, une rubrique à bras joueuse. Pour vous servir aujourd'hui, Rémi, Didier, Yacouba, Aboubacar, Stéphane, Ophélie, Vétiré, Vivien et Timothée.
Et pour commencer, je vais vous lire un texte de Grégory, la délatilée d'écriture. Je me souviens de la première fois que j'ai joué aux échecs. Je me suis fait battre car je ne connaissais pas bien les pions. Mon adversaire en a profité pour l'emporter facilement. Il m'a mis échec et mat en 7 coups, un vrai professionnel. Heureusement, je n'avais pas parié. Le niveau de mon adversaire étant supérieur, je savais que j'allais perdre de l'argent bêtement. Maintenant, avec plusieurs années d'entraînement, j'arrive à défier mon premier adversaire. Plus bien à avoir avec la première fois. Maintenant, c'est serré.
Ah!
fatigué. Every night and every day.
D'écouter Pas Contente de Vodou Game. Nous recevons aujourd'hui Frédéric du collectif Hot Fuzz Game pour parler des jeux de société en particulier et de leur conception. Donc d'abord Frédéric, bonjour.
Bonjour.
J'aurais voulu savoir quelle est votre activité, Frédéric.
Alors moi je fais partie du collectif Hot Fuzz, mais excusez-moi, je suis dans la rue, il y a beaucoup de bruit, mais je suis auteur de jeux aussi et éditeur. Mon activité principale c'est éditeur. Mais pour le moment, je m'auto-édite.
D'accord. Et quels sont les objectifs de Hot Fuzz Game ?
Hot Fuzz Game, en fait, c'est un collectif qui rassemble des auteurs de la région rouennaise pour mettre en commun nos connaissances, notre expérience, et puis proposer les différents projets à différents éditeurs.
Et quelles sont les bases pour concevoir un jeu que vous avez, que vous voulez mettre
Alors là, bah en fait, il faut avoir la volonté de le faire, avoir une idée. Je pense qu'il faut quand même connaître les jeux qui existent, parce que ça sert à rien de refaire des jeux qui sont déjà sur le marché. Et puis, prenez au moins l'originalité. Par exemple, si c'est pour refaire un jeu de loi ou un Monopoly, il n'y a que très peu d'intérêt à le refaire.
Oui, comment on trouve alors de nouvelles idées pour des jeux?
Moi, je peux parler que pour mon expérience. Je sais que moi, c'est une passion qui me travaille depuis 30 ans. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le milieu du jeu. Mais là, c'est que très récemment que je suis devenu auteur. Mais les idées, elles vous viennent comme ça. Il n'y a pas un moment où vous dites, tiens, il faut que je trouve une idée. Elles viennent. Et après, des fois, elles repartent. Ça prend un an. Des fois, en deux jours, vous faites un jeu. Et puis, c'est surtout un processus où on n'arrête pas de... Le jeu est très... Enfin, le prototype est très évolutif. Entre votre idée et le moment où vous avez un prototype final qui est prêt à être édité, il s'est passé énormément de versions parce que vous allez faire des changements au fur et à mesure des tests que vous allez faire avec les joueurs.
Et par exemple, comment choisissez-vous le nom d'un jeu?
Alors, c'est... le nom, effectivement, là, j'ai des jeux sous le coude et j'arrive pas à trouver de nom. Il y en a qui choisissent des noms à consonance anglo-saxonne en se disant que comme ça, si jamais le jeu est édité à l'étranger, il n'y a plus besoin de chercher un nouveau nom. Après, c'est pareil, vous faites des recherches à l'INPI pour savoir si ce nom n'est pas déjà déposé et puis ce qui vous fait plaisir.
Alors,
je dirais.
Oui, vous pouvez peut-être nous rappeler ce qu'est l'INPI.
Pardon, l'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle. En fait, si vous voulez, par exemple, créer le jeu Monopoly, vous allez vous apercevoir que le Monopoly s'est déposé en France.
Ah,
donc, si vous faites un jeu qui s'appelle Monopoly, je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est Hasbro va faire un procès et vous allez le perdre parce qu'Hasbro, c'est une grosse machine. Donc, il y a des plus petits éditeurs, mais si le nom est déjà déposé, vous ne pouvez pas l'utiliser.
Et plus particulièrement... Oui. Plus
particulièrement...
Pardon. Plus particulièrement, comment identifier les différentes tranches d'âge selon la conception du jeu, pour savoir à qui peut s'adresser le jeu selon les tranches d'âge, quoi. Vous choisissez comment?
Comment identifier? Alors, déjà, il faut voir si le jeu a du texte, faut que les enfants sachent lire, déjà, ou s'il y a du calcul. Des fois, il y a des jeux assez simples, mais on s'en rend compte qu'il y a des multiplications, des divisions à faire, donc déjà, ça va limiter l'âge. Donc ça, c'est la base. Et après, il y a un degré de réflexion. Alors, soit vous connaissez bien les enfants et vous savez que c'est pas adapté à eux, soit vous faites des tests, puis vous rendez compte qu'en fait, si vous pensiez que le jeu était jouable à partir de 10 ans, vous jouez avec des enfants de 10 ans et ça marche pas du tout. Mais c'est pareil, il faut faire le plus de tests possible parce que les enfants qui ont des parents joueurs et qui ont l'habitude de jouer, on se rend compte qu'ils progressent très vite. Et à 10 ans, ils peuvent jouer à des jeux, à quasiment tous les jeux adultes ou presque. Mais sinon, c'est par empirisme. Hein.
Et sinon, je veux dire, vous, les jeux que vous éditez ou concevez, ça va de quel âge à quel âge, à peu près, la tranche d'âge, ça peut aller de...
Alors moi, mon premier jeu qui s'appelle Lille, c'est à partir de 10 ans. Et le second aussi, parce que ce sont des jeux familiaux, mais en dessous, il y a quand même des notions de stratégie, de tactique qui vont être difficiles à appréhender pour les enfants plus jeunes. Mais pareil, c'est pas, c'est une fourchette, c'est une estimation, et voilà quoi.
D'accord, donc il n'y a pas de classement comme pour la télé ou le cinéma par exemple en...
Non, pas du tout, non, c'est pas les PEGI du jeu vidéo, les 3, les 10, non, là, dans le jeu vidéo, il n'y a rien. Aux États-Unis, c'est un peu plus rigoureux, mais c'est surtout si vous faites des jeux en dessous de 14 ou 13 ans, je crois, il faut faire des tests plus poussés. Vous devez faire tester le matériel par des services gouvernementaux, donc ces tests sont payants. Donc ça augmente le prix du jeu. Donc généralement, les éditeurs qui font des jeux pour adultes s'embêtent plus, ils mettent que c'est à partir de 14 ans, point barre, quoi. Alors qu'en France, c'est encore très libre.
D'accord. Quand vous concevez un jeu, vous avez quoi comme limite de budget, vous, personnellement?
Excusez-moi, j'ai pas entendu la question.
Quand vous concevez un jeu, quelle est la limite de budget que vous pouvez consacrer au jeu?
Quelle est la limite de
budget?
Ah, du budget.
Oui.
Ah, par rapport au prix du jeu, voilà. Alors,
oui,
en gros...
Bon, d'abord, savoir combien vous pouvez mettre.
Combien l'investissement pour concevoir un jeu. Ouais.
Voilà, oui.
Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeu, il a un coût de développement, mais quand on parle du coût d'un jeu, c'est le coût de production. Donc, si un jeu vous coûte 10 euros à produire, parce que l'imprimeur vous dit, moi, je fais votre jeu, mais ça coûte 10 euros, en gros, il va se retrouver à 6 fois plus cher dans le magasin. Donc, c'est un jeu qui va être vendu au public 60 euros. Donc, si vous faites un jeu et que l'imprimeur l'estime à une trentaine d'euros, ça veut dire que vous allez le vendre quasiment 200 euros au prix public, donc c'est pas possible. Alors, c'est vraiment limiter une niche de joueurs qui ont les moyens de s'offrir ça. Donc, c'est surtout ça, et vous vous rendez compte que, en fait, ce qui fait exploser le prix d'un jeu, c'est les figurines en plastique.
D'accord.
Voilà, parce qu'il faut faire des moules, etc. Mais sinon, il existe depuis peu un système qui s'appelle le financement participatif ou crowdfunding en anglais.
Oui.
Et là, justement, ça a permis de développer, enfin, de créer des jeux qui n'auraient jamais pu être créés autrement parce que les créateurs qui ont des projets très ambitieux disent, mon jeu coûte très cher et ils proposent en fait aux gens de le préacheter, donc ce qui lui permet d'avoir la trésorerie pour développer le développement du jeu, pour développer le jeu en fait, pour le créer.
Et
donc, ça, c'est vraiment la très grosse tendance.
D'accord. Et ça marche bien comme. Comme méthode.
Le crowdfunding, oui. Ça, les jeux de société, je crois qu'ils ramènent quasiment autant d'argent que les jeux vidéo et le taux de réussite est plus élevé que le jeu vidéo. Non, là, il y a des jeux qui lèvent des millions de dollars. Hein.
Oui.
Je crois que le record est à une douzaine de millions.
D'accord, oui, ça fait de beaux
budgets. Donc avec 12 millions de dollars, on commence à faire des choses. Mais c'est pas pour ça que vous allez gagner une fortune, en fait, parce que si vous levez 12 millions de dollars, c'est qu'il y a, je sais pas, plusieurs milliers de personnes qui voulent acheter. Mais la contrepartie pour laquelle ils vont vous financer votre jeu, c'est que vous allez leur donner ce que les Américains appellent des goodies, c'est-à-dire des choses que les gens n'auront pas dans le commerce s'ils achètent le jeu dans le commerce. Et donc, vous allez leur donner du matériel en plus ou des illustrations spéciales, spécifiques pour eux. Mais tout ça, ça a un coût, donc ça vient gréver le budget du jeu. Mais c'est quand même un moyen extraordinaire de financer des jeux qui n'auraient jamais pu être financés autrement.
Quelles sont les grandes familles de mécanismes retrouvés dans les jeux, mis à part les figurines ou enfin, les cartes?
Alors, vous avez, les familles. Alors, il y a les jeux d'enchères, il y a les jeux d'observation, il y a les jeux de mémoire. C'est généralement les jeux pour enfants. Il y a les jeux de rapidité, ce qu'on appelle les jeux de stratégie. Donc, les jeux abstraits, par exemple, les échecs, c'est partie de la catégorie des jeux abstraits. Il y a les jeux, plus récemment, il y a les jeux de deck building. Alors, c'est les gens construisent leur paquet de cartes, en fait. Chacun a son propre paquet de cartes et achète des cartes et construit son paquet. Alors en plus, quand on dit jeu de stratégie, ça recoupe plein de types de jeux en fait. Avec tout ce que je viens de vous dire, on a ciblé un gros paquet de jeux qui existent sur le marché.
Et alors, est-ce que quand on conçoit un jeu, je pense plus à l'international, est-ce qu'il y a des différences d'un pays à l'autre ou d'une culture à l'autre? Ou est-ce qu'il y a des mécanismes?
Oui, il y a trois écoles communément admises. Il y a l'école allemande où c'est plutôt les mécanismes avant le thème, c'est-à-dire que vous avez créé un super mécanisme de jeu, une prise de pion, je sais pas quoi, et on va travailler le thème plus tard. Les Américains, c'est exactement le contraire. Eux, ils ont un thème, par exemple, on va faire un jeu avec des guerriers, de la fantasy, enfin des orques, des nains, etc. Et puis en fonction de cet univers-là, on va développer les règles, les mécanismes. Et puis, il y a l'école française, qui est un mélange des deux, en fait. Et celle qui a le vent en poupe en ce moment, c'est l'école française.
Je pense qu'il doit y avoir des jeux qui ont un rôle, ou tout au moins qui touchent universellement tous les pays, comme vous avez dit. Si vous pouvez préciser s'il y a des jeux universels.
Oui, il y a des jeux. Oui, tout à fait. Il y a des jeux quand le Monopoly se vend dans le monde entier, le Trivial Pursuit aussi. Pour les jeux plus modernes, Warhammer, le jeu de figurines, se vend aussi. Alors quand je dis dans le monde entier, c'est dans le monde occidental, dans les pays dits riches entre guillemets. Mais oui, un jeu quand il a du succès dans un pays, généralement il est adapté. Dans un pays ou un continent, il est adapté pour trouver un nouveau public. Alors... Mais sinon, il y a quand même des. Pardon ?
Oui, non, je vous écoute.
Non, mais sinon, il y a quand même des spécificités, mais globalement, quand un jeu a du succès, il a du succès partout.
Et donc, bon, je vais sortir un peu de la conception du jeu, mais question très générale, pourquoi on joue ? Quel est le but quand on joue ?
Alors, moi, je peux pas vous dire pourquoi les gens jouent, je peux vous dire pourquoi moi je joue. Je joue parce que c'est un système très égalitaire. C'est un système qui abolit les classes sociales, les différences de culture, les différences sociales. Et en fait, chacun a son cerveau à sa disposition et c'est celui qui va être le plus malin qui va gagner. C'est pour ça que globalement, les jeux où on fait que lancer le dé, avancer un pion, ça n'a que très peu d'intérêt pour moi, puisque là, il n'y a pas besoin. Mais quoique, si ça dure pas longtemps, ça peut être très amusant. Mais pour moi, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, quoi. On est tous égaux devant le jeu.
Quel impact peuvent avoir certains jeux ? Certains jeux peuvent influer sur quoi directement comme impact ? Y a-t-il des jeux qui ont
Alors,
un
là,
impact ?
Vous me posez une colle. Ah. Là, l'impact des jeux...
Je veux dire, l'impact sur la société ou sur... je sais pas comment dire...
Je pense que le jeu de société, c'est pas un média encore assez influent pour avoir un impact quelconque. Contrairement aux jeux vidéo... qui, à travers les jeux violents, aurait développé une certaine violence, en tout cas, qui est dénoncée dans les médias. Là, le jeu vidéo, c'est vraiment encore trop petit, quoi. Même s'il y a des jeux qui se vendent à des millions d'exemplaires, on peut pas dire que c'est une influence sur le comportement des gens.
Alors, peut-être à l'inverse, est-ce que les jeux de société sont, influencés par la société, mais par les changements un peu culturels ou sociétaux ?
Oui, tout à fait, oui. Il y a des Américains qui ont créé des jeux où on est un serial killer. Donc ça, c'est typiquement américain, ça n'a jamais été fait ailleurs. Bon, alors c'est des jeux underground, hein, c'est quand même pas Hasbro qui les fait, mais ça, c'est clair que si c'était pas américain, ça n'existerait pas. Donc oui, il y a quand même un certain reflet, mais c'est pas représentatif du jeu, quoi. Le jeu, c'est vraiment un havre à part. On est en dehors de la société, c'est aussi pour ça qu'énormément de gens aiment ce jeu, et même jouer, pardon.
Donc, on a déjà parlé sur les grandes familles des jeux. Y a-t-il des jeux de rôle, des jeux érotiques, des jeux de rôle ou des jeux érotiques qui sont édités ?
Alors, il y a des jeux de... vous voulez parler de jeux de rôle érotiques ou des jeux de rôle et des jeux érotiques ?
Les deux, si vous avez les deux.
Alors, il y a les jeux de rôle, il y en a énormément. C'est plutôt revenu à la mode en ce moment. Et des jeux érotiques, il y en a quelques-uns.
D'accord.
Il y en a une petite dizaine, je dirais. Et c'est généralement, soit on joue en couple pour relancer la libido, soit vous invitez des amis, puis ça finit, en partie fine. Mais alors, c'est des jeux, ils existent, mais alors au niveau mécanisme, enfin au niveau ludique, c'est quand même le désert, quoi.
Ah.
Le but du jeu, c'est quand même d'avoir une relation sexuelle, enfin, voilà, quoi. C'est pas fait pour... au niveau ludique, ouais, ce que je disais, ouais, ça a très peu d'intérêt. Enfin, sinon, les jeux eux-mêmes, pourquoi pas, hein. Mais voilà. Mais oui, ça existe. Et le jeu de rôle, bah, c'est très bien. C'est généralement pratiqué par des étudiants parce que c'est une activité qui consomme énormément de temps, qui est pas forcément très chère, même si les livres de jeux de rôle coûtent cher, mais comme on peut les trouver sur Internet ou faire des photocopies si un copain en a, alors que refabriquer un jeu de société, c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais ça consomme un temps fou, quoi. Donc faut vraiment être étudiant ou avoir beaucoup, beaucoup de loisirs.
Alors, pour revenir à la conception des jeux, qui on trouve, enfin, quel professionnel ou quel métier on trouve dans la, bon, en dehors de du concepteur en lui-même?
Alors, vous avez l'auteur de jeu, vous avez l'illustrateur, bien évidemment. Vous avez celui qui fait la PAO, la conception graphique, le graphiste. Ensuite, vous avez l'imprimeur, celui qui fabrique le jeu. Vous avez l'éditeur, c'est-à-dire, c'est celui qui amène, c'est comme le producteur dans un film de cinéma, c'est lui qui amène les sous pour faire le jeu, qui trouve le fabricant et qui le fait faire. Et vous avez après le distributeur qui distribue les jeux, comme vous avez des distributeurs pour les télés, pour les pommes de terre, ainsi de suite. Et après, vous avez le revendeur, donc qui fait l'interface entre le public et les jeux.
Alors, l'interview arrive déjà à son terme, donc je vous remercie. Je rappelle qu'on recevait Frédéric du collectif Hot First Game à Rouen. Alors, peut-être que vous pouvez nous donner un... Je ne sais pas si vous avez une page sur les sites sociaux ou un site internet ou un numéro de téléphone.
Sur Facebook, on tape Hot First Games et puis on va nous retrouver.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir répondu à nos questions sur la conception des jeux de société.
Mais ce fut un plaisir. Je vous remercie d'avoir interviewé.
Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. Qui roulent en Ferrari à la plage comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlète. Aux yeux d'acier, au sourire coquet, en Harley Davidson, ils se promènent.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous d'usant, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Au mannequin de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait craque-boum-hu, 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 craque-boum-hu. Encore.
Les Playboys de Jacques Dutronc.
Et maintenant, nous allons retrouver la petite cuisine d'Ozone.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire une recette. C'est le crumble de pommes à la rhubarbe à la poêle pour 6 personnes. Vous prenez, donc il vous faut 6 pommes, donc de la rhubarbe, 450 g de farine, 440 g de sucre en poudre, 100 g de beurre salé, 400 g de beurre salé, 1,5 cuillère de cannelle en poudre et 6 cuillères de muesli. Alors ensuite, nous allons donc commencer par éplucher les pommes.
Je prends un cutter, un économe.
Ah, il faut, si possible, les couper en deux pour enlever le centre de la pomme. Et ensuite, il faut les détailler en gros cubes.
Évidemment, on a lavé nos mains.
Ah, bien sûr. Condition sine qua non.
Oui, oui.
Là, il y a de la main d'œuvre. Ah, ça va tourner. Ouais, il faut les couper en gros cubes.
Ouais. Je vais d'abord tout éplucher.
Ouais.
Ça va, t'es pas trop fatigué?
Non, ça va, non. Bah non, mais je suis obligé d'attendre que les pommes soient épluchées.
Ah bah oui,
pour la suite de la recette.
Ouais, je peux pas aller plus vite. Hein.
Non, mais je sais bien.
Je fais ça.
Je te fais pas trop proche.
Bah, j'espère.
Non. Alors, je vais reprendre un petit peu donc la recette. Donc, il faut 6 pommes, de la rhubarbe, 450 g de farine, 440 g de poudre de sucre en poudre, 400 g de beurre salé, une cuillère et demie donc de cannelle en poudre et 2 cuillères à soupe de muesli. Alors ensuite on épluche les pommes. Là, il y a de la main d'œuvre pour éplucher les pommes, ça veut faire. Ça va être quelque chose. Hein.
On vous donne un coup de main,
François. Oh, ben, merci bien. Nouveau travail à valeur ajoutée.
Là, il y a de la main d'œuvre. Travail à valeur ajoutée.
C'est éplucheur de pommes.
Il faut ça.
Il faut supprimer le chômage.
Il faut savoir ce qu'on veut.
Il faut supprimer le chômage, il nous dit,
bien sûr. Bon, alors, après avoir épluché les pommes. Donc il a fallu donc les couper en deux pour enlever le centre, puis les détailler en gros cubes. Donc, c'est ce que nous avons fait. Il faut ensuite les mettre dans une casserole
avec la rhubarbe,
avec un petit peu d'eau et de sucre.
Et la rhubarbe.
Non, pas
marqué,
tout de suite.
C'est pas marqué, mais on va la mettre tout de suite.
Ah bon.
On le met directement sur la plaque chauffante.
Faut faire chauffer à feu doux.
Voilà.
À feu doux avec un petit peu d'eau.
Avec un peu d'eau, oui.
Ça va déborder.
Donc on rajoute la rhubarbe avec les pommes.
On met un petit peu d'eau.
Et un peu d'eau.
Comme ça. Fallait pas mettre de l'eau sucrée?
Il faut mettre un peu de sucre.
Ça va être bon.
Ah, ouais. Alors donc maintenant nous laissons chauffer à feu doux.
On remue pas?
Non, lorsque les pommes auront bien fondu, il faudra rajouter donc la rhubarbe, parce que nous venons de faire, et laisser mijoter. Donc les pommes et la rhubarbe mijotent. La préparation du crumble, oui. Dans un saladier, donc, il faut mélanger donc, la farine, le sucre, la cannelle et le muesli. Qu'est-ce qu'on a comme saladier? La farine, donc 450 grammes. Donc on verse la farine.
Dans le réceptacle.
Dans le saladier.
Ça
pas oublier donc de mélanger donc la casserole où mijote les pommes et la rhubarbe.
Ouais. Pour éviter que ça colle au fond.
Ouais. Et ensuite, donc, il faut rajouter 6 cuillères d'eau maîtrise. 6 cuillères à soupe.
Ah, les jeux de société. Je me souviens avec émotion la première fois que j'ai joué à Risque, ou plutôt à Risico, puisque c'était en Allemagne. J'étais en troisième en voyage scolaire, et j'ai passé 15 jours dans une famille de Rüsselsheim, une ville allemande, pas du tout charmante, surnommée Oppelstadt. Oui, c'était la ville d'origine d'Oppel. Mais je vais être clair, j'ai jamais aimé l'allemand, et je ne pardonnerai jamais à mes parents de me l'avoir imposé. Et les 15 jours passés en Allemagne resteront dans mon panthéon des mauvais souvenirs. Mais aujourd'hui, Peugeot a racheté Opel, des Français rachètent des Allemands, me voilà enfin vengé. Mais pour en revenir à Risico, il s'agit d'un jeu de société, donc, où le but est d'anéantir ses adversaires et de conquérir le monde. Un jeu tout allemand, en somme. Eh bien, moi qui ne suis pas très joueur, est-ce mon séjour contraint en milieu hostile ? Mais je dois avouer que je me suis amusé comme un petit fou, ou devrais-je plutôt dire comme un grand malade. Je me suis pris au jeu, au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Pour paraphraser un cinéaste, qui n'aurait pas toujours été le bienvenu en Allemagne, je dirais que ce jeu, Risico, a été mon Wagner à moi. Il m'a donné envie d'envahir des pays. Et je me voyais déjà faire passer Napoléon pour un petit joueur. Et puis le séjour s'est terminé, je suis rentré chez moi et j'ai oublié mes rêves de grandeur. Je me suis dit que le monde se passerait très bien de moi. Et je me suis acheté une Nintendo. Je suis aujourd'hui un pacifiste, tout ce qu'il y a de plus inoffensif. Mais quand même, faudrait pas trop que les Allemands me cherchent. c'était Under Pressure de Queen et David Bowie.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il n'était pas une fois une ascension, mais une dégringolade narvalistique. Notre définitivement, irrémédiablement pas fine équipe, Moulmoud ou Dur, Ronald Trumpet, Louis Émile, l'inspecteur Lafouine, Jacques Pervers, Yodinde, le GPS, Poupette, Bob Renard et le magnanime Narvalo. En route, sous le commandement du GPS belge et guidé par Louis Émile, les voilà tous partis pour la mégapole, Monceau-les-Mines, à la recherche des pas disparus de Lyon. Après quelques tournées à droite, tournées à gauche et autres demi-tours intempestifs, le GPS retentit triomphant.
Vous êtes arrivé à destination. N'oubliez pas le guide en sortant. J'accepte les bitcoins.
Et on n'oublie pas le chauffeur. Moi, je veux du vrai pognon, pas des bitcoins.
Mon flair d'inspecteur me fait sentir les embruns et la marée.
Je suis peut-être une quiche en géographie, et je savais pas qu'il y avait la mer à Monceau-les-Mines.
Waouh ! En fait, c'est devenu donc une île Monceau-les-Mines. Les eaux ont dû monter vachement vite. C'est le réchauffement climatique, ça fout tous les tons.
Bande de communistes ! C'est des conneries d'écolo. Chinois, moi, pour réguler la fonte des neiges, des glaces, j'ai rétabli la chasse aux pingouins, aux yétis et aux serpents à plumes.
Il y a mou que les humains. Mou pour suivre, deux fois mou, le même GPS débile mou.
Le cul de l'humain doux se rapproche à peine de celui d'une huître dure.
Mais demandez au GPS de nous indiquer l'endroit où nous nous situons.
Demande-lui toi-même, et c'est lui qui nous a amenés.
Vous êtes très bien. Guillaume.
Et regardez les amis. Sur le panneau de Monceau-les-Mines, il est écrit Ré.
Ben voilà, on est à l'île de Ré. Il y a du bon pâté dans ma pâtétière. J'ai du bon pâté, mais tu n'en auras pas. Et naf, j'ai un coup de fil à passer au divisionnaire. Allô, patron ? Merci, patron. Au revoir, patron. Je démissionne. N'ai pas retrouvé de Lyon, je m'en cogne. J'ai enfin mis les pieds sur l'île de Ré. Je me sens libéré, délivré. Je n'en partirai plus jamais.
Lafouine, plein d'émotions, se dévait et plonge dans le vert océan chatoyeux et chatouilleux, livré à sa personne, nageant en hurlant « Je suis un mérou libre !»
Rivez Max, je l'ai même à la maison.
Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu couler.
Il part en direction des USA. Mon mur subaquatique anti-mérou n'est pas encore sec. Rattrapons-le avant qu'il ne disparaisse dans les eaux internationales. Moulmou, toi qui me parais bien mou pour ton âge, peux-tu te dilater et prendre ainsi une forme d'objet flottant de type bateau, genre OVNI, objet flottant non identifié?
Je peux faire le mou, le faire mou, mais ça va mou me faire mou, très mou, mal mou. Une douleur mou d'au moins 9 sur Eva.
Eva jolie, on reste dans la morue.
Non, mou. L'échelle mou, visuel mou, analogique mou, de l'IFSI mou, d'Evreux mou.
Ta douleur est doux, on s'en tape dur.
Je prends position mou. Qui se charge mou de me gonfler mou?
J'ai pris des cours avec Jacques Mayol. Maintenant, je souffle comme un ventilateur à vitesse maximale. Allez, donne-moi ton embout, mon petit bout.
L'horaire de diffusion ne nous permet pas de décrire plus avant le mode de gonflage de moule mou. Sachez juste que c'est plus horrible que la plus horrible des recherches Google. Une fois gonflé à bloc, Moulmou et Jacques partagent une cigarette. Puis la fine équipe prend la mer à la poursuite du mérou Lafouine en chanson.
Dur homme des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour faire ses comme on veut. Dur homme des femmes, c'est ça qui rend heureux.
Que diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux.
T'es en vue.
Cette terre ressemble fort à Fort Boyard, royaume du grand Olivier Mine et de son compagnon, le père Fouras.
En tout cas, c'est joli. On dirait une maquette pour mon projet de mur.
C'est accueillant doux, comme une escatule dure.
Moulmou, rapproche-toi que je sonne à point levé à la porte à pont-levis.
La porte s'ouvre nonchalamment sur le vide astral, où l'infiniment petit est révélé sur un espace infiniment grand, mais non défini, autrement appelés Olivier Mine, les Monceaux. Mais quelle épreuve les attendent ? Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'Accord d'Accord, au sein du Fort Boyard. Le prochain épisode sera-t-il télévisé ? Vont-ils retrouver Lafouine, le Mérou Libre ? Pour le savoir, adressez-vous à qui de droit, ou bien retrouvez-nous le mois prochain pour le dernier épisode de la saison 4 ou 5 ou 6 du Narvalo.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
À quel jeu vous jouez-vous ?
À quel jeu je joue, moi ? Oui. Ben, moi, je ne joue pas particulièrement. J'écoute surtout à la télévision. Et puis, bon, ben, je teste quand même. Hein. J'essaye de répondre. Voilà, quoi.
Les mots croisés, est-ce que vous
faites
des mots croisés ?
Ah oui, je fais des mots croisés, sudoku, enfin, des choses comme ça.
Les jeux fléchés, tout
oui,
ça.
Oui, voilà.
Bon, limite le loto. Oui, ce serait pour gagner de l'argent, mais pour me faire plaisir, non.
La pétanque ?
La pétanque,
ouais. La pétanque, ouais.
Bah, ça va être bientôt la saison.
Oui, il y a des amis. Peut-être demain, venez.
Ah bah, j'aime bien le Scrabble. Après, qu'est-ce que j'aime bien encore avec les petits-enfants ? Le jeu de dames, enfin des choses comme ça. Ouais, jeu de dames, le Scrabble. Oui, avec les petits-enfants, parce que j'ai des petits-enfants. Enfin, maintenant, je ne joue plus avec eux, ils sont grands, mais...
Voilà. Personnellement, je ne suis pas un amateur de jeu, précisément. Je peux m'exprimer dessus, mais je ne suis pas un joueur habitué. Même de cartes ou autre chose. Ouais. Ou même du loto ou autre chose. C'est pas mon... Je ne suis pas habitué à jouer.
Je ne joue pas. Non. Non. Très peu.
Au Scrabble.
Bah maintenant, ils sont grands. Maintenant, c'est fini. Mais avant, oui, jeu de cartes, un peu. Je mets bien le rami. Jeu de dés aussi, mais après le jeu de société, hein, non, c'est pas mon truc. Voilà.
Ce que j'aimais les jeux de cartes, oui, justement. J'aime jouer à certaines émissions de jeux à la télévision, par exemple. Vous savez, à l'âge où j'arrive maintenant, je ne joue plus beaucoup. Je m'amuse un peu, mais très peu. Non, je m'amuse à faire des mots croisés. Je ne sais pas si c'est un jeu, mais...
Et pourquoi joue-t-on ?
Bah, pour se détendre, déjà. Comme ça, on pense pas à autre chose.
Bah, pour essayer de gagner un peu plus d'argent, quoi. Qu'est-ce qu'on gagne ? Comme ceux qui vont dans les casinos, des choses comme ça. Enfin, moi, je suis pas très de ces trucs-là. Non, moi, je... Rien de spécial.
C'est par plaisir, c'est par... Oui, c'est par plaisir, hein. Mm-hmm. Par... oui, comment je pourrais dire autre chose. Oui, puis pour avoir des connaissances aussi. C'est pour... C'est un peu un genre, un truc d'instruction aussi. Hein,
Parce que justement, on vit d'espoir, d'un gain possible.
Pourquoi on se donne ? Pour le plaisir et la compagnie.
C'est, voilà. Est-ce que ça m'apporterait peut-être la distraction, ouais, le plaisir de jouer avec mes enfants, oui. Mm-hmm. Après, oui, ça peut être bien, oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
C'est souvent pour s'amuser. C'est la définition du jeu, je crois.
Ouais.
Hein ?
Quand on vous dit jeu, à quoi pensez-vous ?
Bah, distraction, jeu télévisé, jeu pour enfants, enfin tout, quoi.
Oui.
L'ensemble.
Jeu du loto, je pense.
Ouais. Loto ?
Oui. À autre chose, faut que je trouve autre chose.
Qu'est-ce qui vous vient par la tête ?
Je joue pas beaucoup, moi, à part au loto, à part ça.
Et vous gagnez ?
Oui, bah des petites sommes, ça me permet d'aller faire un petit resto avec ma copine, mais bon.
Je dis jeu.
Jeu.
Je pense à moi.
Ouais.
S'occuper de soi, de vivre comme on a envie de vivre, quoi.
Quand on dit jeu, je domine, je décide. C'est un sentiment un peu de commandement ou de domination.
De société,
voilà.
Du jeu de société.
Je vous aime.
À moi-même.
À vous-même.
Je ou je ?
Vous êtes libre de la question.
Je, c'est je. Oui, c'est moi. Oui.
À moi.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans les jeux ?
qui me plaît dans les jeux, bah, c'est... Moi, ce que j'aime surtout dans les jeux, c'est les questions sur pas mal de choses, des choses variées, quoi.
Oui.
Hein? Un jeu?
Oui.
Les dominos?
Les dominos? Ouais.
Bah, vous savez, je suis pas très joueuse, à part le loto, je sais rien. Non, il n'y a rien de spécial, hein, parce qu'on fait ça avec une amie depuis plus de 40 ans, alors.
Ah ouais.
Alors, je n'y joue pas du tout.
Non, ça c'est un truc qui m'intéresse absolument pas.
Le hasard et l'espoir de gagner, peut-être, quand on a un peu de chance.
Le bridge, autre, mais c'est arrêté.
Je suis pas une grande joueuse.
Ouais.
C'est peut-être un défaut, parce que mes enfants me le reprochent des fois, de ne pas jouer avec eux. Ouais, je suis pas une grande joueuse.
Mm-hmm.
Voilà. Ah, vous me parliez des jeux G-I-U-X. Ben je pense à des tas de jeux, aux jeux de cartes.
Et maintenant un petit texte de Rémi sur le jeu. Tout est jeu. Les jeux, leur origine, prennent leurs racines et sont donc dans la vie de tous les jours, depuis toujours. Car tout est jeu. La vie est un jeu avec ses règles. Oui, tout est jeu. Même conduire un engin est un jeu. Le permis de conduire, on roule, on a des points, on joue. Bientôt la vie avec des points de vie, peut-être, à accumuler, mais pour quand ? Autre jeu, les études sont des jeux, le bac et autres études sont des jeux à points. La folie est un jeu à points, tant de points égale fou, oui ou non, selon l'échelle de notation aux USA. Tout est à points, même les phrases. Donc écrire est un jeu. Jeu de mots, écrire, eh bien un jeu, un point, c'est tout. Et voilà, on est entré dans le jeu, cela dès la naissance. Et l'on joue toute sa vie. Bref, on fait le jeu de quelqu'un. Donc il y a toujours quelqu'un au-dessus. Je joue le jeu, tant bien que mal, en toutes circonstances. Tout devient jeu. Même si t'as pas envie, tu dois jouer. Toujours, oui, mais le jeu en vaut-il la chandelle? Et jusqu'où pousser le jeu? J'adresse ici d'amicale pense à une psy, dénommée Bibi, voire Bébé, et de même Béa. Salut Bibi, Bébé, Béa, 3 en 1.
Pour la Minute du Pôle, on a cherché quelque chose en lien avec le thème du jour et on a trouvé un article qui s'appelle « Le jeu dans l'œuvre de Winnicott » par le docteur Rémi Bailly, qui est pédopsychiatre à la clinique Georges Heuillère à Paris. Vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. On en a extrait quelques passages puisque c'est un peu long. Le jeu est une notion centrale dans l'œuvre de Winnicott. Celui-ci considère que ce qui fait que l'enfant est capable de jouer revient à questionner ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Tout au long de son œuvre, Winnicott se positionne très clairement comme héritier des thèses freudiennes et intègre à sa pensée les avancées théoriques de Mélanie Klein. Mais il se démarque de cette dernière, notamment par rapport à la question du jeu, qui n'est pas selon lui uniquement le reflet des représentations internes de l'enfant, mais témoigne aussi de l'impact de l'environnement sur son développement.
Mélanie Klein a revendiqué la mise en place de la technique de l'analyse par le jeu et par là même la technique d'analyse des enfants qui consiste à interpréter le jeu d'un enfant comme on interpréterait un rêve. Elle utilise le jeu comme médiation thérapeutique, une façon de parler et d'associer librement. Elle le considère comme un moyen d'accès aux représentations internes symboliques de l'enfant.
Winnicott inverse la proposition des psychanalystes qui l'ont précédé. Si le jeu est pour eux un moyen thérapeutique, lui soutient que le jeu est un tout, qui a des vertus thérapeutiques en soi. Le jeu n'est plus uniquement un contenu, mais aussi un contenant. La psychothérapie et la psychanalyse ne feraient qu'utiliser les potentiels du jeu.
La théorie du jeu de Winnicott l'a amené à reconsidérer la technique de l'analyse, tandis que Mélanie Klein transpose le jeu à la théorie analytique. Il nous semble que l'essentiel de l'apport de Winnicott tient à ce qu'il soutient que l'environnement ne peut être dissocié de la genèse d'un individu. Le jeu contient en germe cette genèse. Donc Winnicott disait en 1975 « Il ne faut jamais oublier que jouer est une thérapie en soi. Faire le nécessaire pour que les enfants soient capables de jouer, c'est une psychothérapie qui a une application immédiate et universelle. Elle comporte l'établissement d'une attitude sociale positive envers le jeu. Mais il faut admettre que le jeu est toujours à même de se muer en quelque chose d'effrayant. Et l'on peut tenir les jeux, games, avec ce qu'ils comportent d'organiser, comme une tentative de tenir à distance l'aspect effrayant du jeu, playing.
En conclusion, nous espérons que cette heure passée en notre compagnie vous aura et gentiment jouer sur votre humeur. Nous remercions encore M. Frédéric du Old Floors Game d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Nous remercions également toute l'équipe de Zone Libre, une équipe haute en couleurs et en mots, ainsi que l'équipe de Principes Actifs, J.C. le maître du jeu, Damien alias Double 6 et le petit cheval Timothée. Prochaine émission le 29 juin de 12h30 à 13h30, toujours sur Principes Actifs 102.4. Si vous souhaitez nous réécouter, n'hésitez pas à rechercher notre podcast sur principesactifs.net à la page de Zone Libre. Il est présentement 13h29, bientôt 30. En conséquence, nous sommes contraints de rendre l'antenne avant l'arrivée des autorités autorisées, motorisées. Et oui, on ne fait pas tout ce qu'on veut. À bientôt.